Arbre Pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Gaëtan Rohr, Philippe Subercase.
Merci d'avoir accepté notre invitation, François-Xavier Brunet. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Pyrénées. Merci d'avoir accepté cette invitation qui vous est adressée depuis donc la rédaction de Présence. Et puis Gaëtan Rohr qui représente la Nouvelle République et des Pyrénées, le groupe La Dépêche. Merci d'avoir accepté, je disais, cette invitation, ça nous fait plaisir. Je crois que c'est la première fois que vous venez dans les studios de Radio Présence à Lourdes, mais
c'est vrai.
Vous connaissez Radio Présence, puisque vous me disiez qu'il y a un autre, il y a quelques temps, une autre époque, vous me disiez, vous aviez fait de la radio à Radio Présence.
Ah oui,
mais
oui,
pas
oui.
Ici.
Vous me rappelez des souvenirs du siècle dernier, puisque c'était dans la fin des années 1980, alors que j'étais étudiant à Sciences Po Toulouse. Je fais de la radio, et notamment à Radio Présence, dont les studios étaient au-dessus de l'église de la Dalbade, et j'y présentais un bulletin d'information tous les mardis matin, je crois, mercredi matin à 8h, et je faisais une interview politique le vendredi à 18h. Voilà. Et votre confrère, journaliste de Radio Présence à l'époque, était Stéphane Thépeau, qui est aujourd'hui correspondant du Monde, je crois. Il travaille au Monde, je l'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone.
D'accord. Ben voilà, donc vous connaissez un peu ce monde de la radio.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Et le monde des médias en général.
Un petit peu.
Vous avez été également premier adjoint au maire. Pendant 19 ans et 4 mois.
Oui, à Tarbes, oui, tout
à Tarbes,
fait. Tout à fait.
Tarbes,
tout à fait. C'est une très belle expérience aux côtés de Gérard Trémenge. J'étais premier adjoint au maire, oui, pendant 3 mandats, effectivement. Alors, ça a duré un peu plus de 18 ans, puisque le premier mandat, je crois, avait été prolongé d'un an.
D'un an de plus, voilà, oui, tout
ça.
À fait. À cause des multiples élections qu'il devait y avoir, donc vous avez repoussé les élections municipales.
Ah, c'est pas nous qui les avions repoussées,
non,
c'était le ministre de l'Intérieur.
Oui, tout à fait. cette double casquette, être à la fois président de la Chambre d'industrie, et puis également avoir été élu local, adjoint au maire. Qu'est-ce que ça vous a enseigné? Qu'est-ce que vous avez retenu?
Ça donne une richesse, et j'allais dire un regard à 360 degrés sur les problématiques du territoire, sur la vie de nos institutions. C'était une expérience extrêmement enrichissante. Moi, je suis devenu premier adjoint au maire à Tarbes. C'était en 2001, donc j'avais 32 ans. Donc j'étais relativement jeune.
Premier adjoint, c'est pas rien.
C'était une très belle expérience, oui, tout à fait. Très belle expérience.
Vous avez arrêté pour quelle raison?
Parce que j'ai estimé que trois mandats,
ça suffisait.
C'était suffisant. Et puis, vous savez, dans la vie, moi, j'ai une conception de la vie qui est la suivante, c'est que l'énergie que l'on consacre à résister à la fin d'une phase est une énergie que l'on ne consacre pas à accueillir la phase suivante. Donc voilà, la vie est un immense livre, il faut accepter d'en tourner les pages. Je l'ai fait, c'était à ma propre initiative.
Oui, d'accord. La politique, c'est quelque chose que vous aimez, qui vous titille toujours?
Je suis un citoyen désormais libre de tout engagement politique, avec des convictions. Comme je dis, je suis... obstinément libéral et européen, mais comme j'ai souvent l'habitude de dire en souriant, Valéry Giscard d'Estaing et François Lyotard étant désormais décédés, je suis définitivement démodé.
Ah oui, vous pensez?
Oui, non.
Donc vous avez tourné la page.
Je m'en sors par une boutade, mais
l'engagement
politique fait partie de mon passé.
D'accord. On vous retrouvera pas donc sur une prochaine liste.
Probablement pas, mais vous savez, je n'ai que bientôt 55 ans.
Donc oui, on pourra peut-être venir vous chercher, vous convaincre.
Il ne faut jamais dire jamais dans rien dans la vie. Mais pour l'instant, c'est absolument pas prévu. Et aujourd'hui, je peux vous dire jamais. Bon, après, je recommencerai pas une carrière politique à 75 ans, rassurez-vous.
Oui.
Donc non, franchement, c'est pas programmé. Je n'en ai absolument pas envie. Moi, je suis avant tout un chef d'entreprise. Je suis assureur. Je fais vivre mon cabinet à Tarbes et à Bagnères-de-Bigorre. J'ai de multiples engagements dans la chambre consulaire, dans les réseaux consulaires. Je suis aussi membre du Conseil économique, social et environnemental à Paris. Je suis ici localement président de l'OGEC de l'institution Jeanne d'Arc Saint-Joseph à Tarbes. Je crois que je me désespère que les journées ne fassent que 24 heures. Donc je ne vais pas en rajouter.
Vous n'avez pas en rajouter. Président quand même de la CCI, de la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes, depuis 13 ans et un mois.
Ouais. C'est mon troisième mandat. Donc voilà, trois mandats municipaux. Trois mandats consulaires. Je vous laisse deviner la suite.
C'est un mandat qui dure 5 ans ?
5 ans.
5 ans, d'accord. La Chambre de commerce et d'industrie, vous avez été reconduit, donc c'est aussi une preuve que le travail que vous faites.
Alors, c'est un travail d'équipe, tout d'abord. Oui. Les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics de l'État, d'abord, assez atypiques, mais vous les connaissez, vous suivez souvent nos travaux, qui sont dirigés par une assemblée de chefs d'entreprise, de dirigeants d'entreprise, élus par leur pair pour 5 ans. Mais il y a une équipe, moi, la Chambre de commerce et d'industrie, il y a un directeur général, Luc Jalamin, qui est un homme absolument remarquable, avec une équipe de 25 collaboratrices et collaborateurs qui font un boulot absolument formidable. J'étais tout à l'heure à Bagnères, autour de l'inspectrice d'académie et du préfet, il y avait un de nos collaborateurs qui est le conseiller d'industrie. Enfin voilà, on a un travail collégial, et comme j'ai souvent l'habitude de dire, lorsqu'on préside, on est non-exécutif, et on n'a jamais que le talent de ceux qui nous entourent. Donc, c'est infiniment gré. C'est très agréable d'animer ces équipes-là.
C'est une chambre qui a les moyens de fonctionner, suffisamment de moyens, vous trouvez ?
Écoutez, nous sommes actuellement en plein débat budgétaire au Parlement. L'essentiel des ressources des chambres de commerce et d'industrie provient de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, dont le plafond est voté chaque année en loi de finances. L'État, Bercy, a toujours l'habitude de vouloir raboter les ressources des chambres de commerce et d'industrie. Ils l'ont fait aussi pour les chambres de métiers d'artisanat. Nous avons un dialogue avec l'État. Moi, je suis trésorier de CCI France. On a un dialogue avec l'État, avec Bercy, mais aussi avec les parlementaires. Je dois d'ailleurs saluer les parlementaires de ce département qui soutiennent le réseau des chambres de commerce et d'industrie, la nôtre en particulier. Je pense aux députés de cette circonscription, Benoît Mournet, qui siège à la commission des finances. Je pense également à la sénatrice Maryse Carrère, qui est présidente de groupe au Sénat, à l'autre sénatrice Viviane Artigalas. Il y a un travail collégial que nous faisons avec ces trois parlementaires qui est absolument remarquable. Bon, il va y avoir 49-3 pour le budget. Aucune révélation, là, vous êtes d'accord avec moi. Bon, donc il faut travailler sur la copie du gouvernement. Il y a des amendements qui ont été votés en commission des finances à l'Assemblée. Il y a une copie qui a été revue au Sénat. Voilà, comme on dit en bon bigourdan, work in progress.
En l'état, elle est comment cette enveloppe? Pour l'instant,
Elle serait stable. En dépit, voilà, je pense qu'on est en train de réussir à déjouer la volonté de Bercy. Mais il faut que vous sachiez que lorsque je suis devenu président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes, notre ressource fiscale était de l'ordre de aller un peu moins de 6 millions d'euros. Aujourd'hui, nous sommes à 1,7 million. Il y avait 50, au service central général, il y avait une cinquantaine de collaborateurs. Aujourd'hui, il y en a 25. Bon. Alors, mais on continue à faire. Et je crois qu'on est vraiment très engagé dans l'action quotidienne. Et le souci que nous avons, on a remanié complètement le management et la gouvernance de la Chambre au cours des années précédentes. Et ce que nous nous efforçons de faire, c'est de consacrer l'essentiel de nos ressources à l'opérationnel.
Est composé de quelles missions ?
Qui sont les missions traditionnelles des chambres de commerce et d'industrie, c'est-à-dire l'accueil des créateurs d'entreprises, qui est l'appui et le conseil aux entreprises, qui est l'accompagnement, le montage de dossiers, qui est également la formation, puisque les chambres de commerce et d'industrie d'Occitanie ont un outil formidable de formation qui s'appelle Purple Campus, dans lequel nous avons tous rassemblé nos outils de formation, mais nous avons conservé le campus EGC Business School, qui est un campus national, que je préside au niveau national d'ailleurs, vous voyez que j'ai quand même deux, trois trucs à faire, qui a une vingtaine de campus en France et Outre-mer, et qui travaille peut-être à l'ouverture d'un campus au Maroc.
Voilà.
Donc on a des outils, on a des moyens, on a des missions traditionnelles qui sont importantes. Voilà, tout à l'heure, j'étais sur la rencontre entre l'éducation nationale et le monde des entreprises. On organisera le 29 février la nuit de l'orientation à la Chambre de commerce et d'industrie. Oui. Donc on a des actions, on a des missions que nous menons de notre mieux.
Comment se porte, de façon économique, le département des Hautes-Pyrénées ?
Alors, le département des Hautes-Pyrénées, j'allais dire... pardon d'être peut-être décevant, mais j'ai souvent l'habitude, quand on me pose la question, en disant le département des Hautes-Pyrénées, il a ses spécificités, mais dans le fond, il est confronté à des problématiques qui sont à peu près celles auxquelles l'ensemble de notre pays est confronté. avec les successions de crises que nous avons connues, le Covid, la guerre en Ukraine qui a provoqué une flambée sur les prix de l'énergie, des matières premières, etc. Donc nous sommes en train collectivement de nous remettre, parce que le monde de l'entreprise est un monde résilient. Mais le département des Hautes-Pyrénées est confronté aux mêmes difficultés que le reste du territoire, avec néanmoins des spécificités, puisque nous marchons sur trois pieds. Le premier, c'est le tourisme. Il faut savoir que le tourisme représente grosso modo à peu près 7 à 8% du PIB national. Il représente un tiers du PIB, entre guillemets, territorial des Hautes-Pyrénées. Ce qui est quand même assez considérable. Et dans ce PIB territorial touristique, Lourdes en représente 30 à 40%, lorsque tout fonctionne bien, comme c'est en train de refonctionner. On en reparlera si vous voulez. Donc ça, c'est une spécificité très forte. La saison estivale a été globalement plutôt bonne. La saison hivernale se présente sous des auspices qui sont meilleurs, mais qui dépendent des cieux, si j'ose dire ici, et de la météo, mais on voit que les données climatiques, je l'espère, nous seront favorables pour assurer les fêtes de Noël. Ça, c'est le premier pied. Hein, on y reviendra plus en détail, si vous le voulez. Le deuxième pied, c'est l'industrie. Oui. L'industrie qui est un marqueur très fort de notre territoire. Et je voudrais dire que après avoir connu des décennies de déprise industrielle, l'industrie dans les Hautes-Pyrénées recrute à nouveau depuis 2-3 ans. Donc ça, avec deux territoires d'industrie, Lac Potarbe et Nest-Comminges, qui ont été renouvelés, avec des opérations. On était la semaine dernière, je ne sais pas si vous étiez représenté, en tous les cas vos médias étaient représentés à la nuit de l'industrie à l'UIMM, on a vu des choses absolument, absolument formidables. Ça c'est le deuxième pied, donc voilà, c'est un pied qui se tient avec des difficultés, je dirais, spécifiques au secteur, sur des trésoreries en tension, les relations avec les donneurs d'ordre, etc. Mais tout ça se gère au niveau des branches. Et puis le troisième pied, c'est l'économie, j'allais dire, résidentielle. C'est-à-dire, monsieur et madame tout le monde, et c'est pas péjoratif, parce que je suis un monsieur tout le monde, et vous êtes vous aussi monsieur et madame tout le monde. Hein. Oui. C'est-à-dire, on vit, on consomme, etc. Et donc là, on est confronté quand même des difficultés sur, ou en tous les cas, des tensions, des incertitudes sur le monde du commerce, notamment la consommation des ménages, qui, en valeur absolue, n'est pas forcément tellement en baisse, mais en volume est en baisse, parce que c'est-à-dire que c'est compensé en partie par l'inflation, mais on voit bien qu'il y a des tensions sur la consommation des ménages, et ce qui fragilise certains secteurs. Donc vous voyez, les trois pieds, ce sont les mêmes trois pieds que connaît l'ensemble de notre économie. On pourrait rajouter, mais c'est, pour moi ça fait partie de l'industrie, le bâtiment et les travaux publics, qui dépendent aussi de la commande publique. Donc vous voyez, un panorama un peu large.
Commande publique qui, on le voit, les communes ont de plus en plus de mal. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet Covid ou si, comme vous, ils ont du mal à se faire financer par l'État, avec les dotations que font l'État, mais les collectivités ont un peu de mal aujourd'hui à faire face avec le... Effectivement, eux n'ont pas eu le bouclier tarifaire par rapport à tout ce qui est électricité, gaz.
Ouais. Alors, vous aviez la gentillesse de rappeler que j'ai été élu municipal pendant de longues années, oui. Notamment j'ai présidé la commission des finances de la ville de Tarbes et de l'agglomération, donc je sais comment ces choses fonctionnent bien. Je crois que les difficultés auxquelles sont confrontées les collectivités territoriales dans leurs relations notamment avec l'État, avec les leviers fiscaux, puisque la disparition, la suppression de la taxe d'habitation a fait perdre aux collectivités, notamment aux communales, un levier fiscal. En fait, tout ça, ce ne sont que des symptômes d'un problème qui est beaucoup plus large, qui est celui de l'efficacité de la dépense publique en France. Aujourd'hui, on voit bien avec la hausse des taux que l'État a atteint des seuils abyssaux d'endettement, donc on ne peut pas demander plus à l'État, on peut et on doit demander mieux. Et les relations entre l'État et les collectivités territoriales, les finances publiques, les finances locales, comme la question qui a défrayé la chronique il y a quelques mois de la réforme des retraites, etc., tout ceci ne sont que des moyens, mais à la base, je pense que nous avons un vrai problème d'efficacité de la dépense publique en France.
Et est-ce que du coup, il y a des répercussions sur ce département ?
Ben, il y a des répercussions, il y a des commandes, il y a des chantiers. C'est beaucoup plus difficile d'ailleurs pour le bâtiment que pour les travaux publics. J'étais avec la plupart des acteurs du territoire il y a quelques semaines à l'Assemblée générale de la Fédération du bâtiment et travaux publics des Hautes-Pyrénées. On voit bien que les tensions, elles sont plus sur le secteur du bâtiment que sur le secteur des travaux publics. Les commandes publiques des collectivités et de l'État continuent bon an mal an, notamment président du conseil départemental, Michel Pellieux, a pris la parole de façon forte en disant qu'il tenait, contre le vent des marées, à maintenir le niveau d'investissement de la collectivité départementale, et nous lui en savons gré. Après, sur le bâtiment, la construction d'œuvres, les constructions de maisons individuelles, mais là, c'est presque plus lié à la distribution de crédits immobiliers qu'à une question de dépenses publiques. Là, pour le coup, c'est notre problème.
Du coup, la hausse des taux et puis les 33% d'endettement qui doivent être être respecté aujourd'hui par les banques est un frein énorme.
Oui, c'est un frein énorme, mais attention aux effets d'optique.
Prenons de la hauteur alors.
Oui, prenons de la hauteur. Les taux auxquels nous sommes arrivés aujourd'hui, auxquels nous sommes revenus, sont des taux d'intérêt normaux. C'est les taux tangentant le niveau zéro, voire même pour les grandes banques, les banques centrales, des taux négatifs, c'est aberrant. Enfin, tout de même, si je vous prête de l'argent, et si pour vous remercier d'emprunter mon argent, je vous donne encore en plus une prime, ça s'appelle un taux d'intérêt négatif. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être sorti de Polytechnique pour comprendre que ça ne pouvait pas durer comme les contributions. Aujourd'hui, on est sur des taux qui sont revenus, qui sont revenus à un ordre normal. La génération de nos parents a emprunté avec des taux à deux chiffres. Mais le problème, c'est que la bascule a été très rapide.
Oui,
c'est ça. Le problème n'est pas le niveau des taux, mais la vitesse à laquelle ils ont augmenté. Alors, aujourd'hui, ça va peut-être se desserrer. Vous avez entendu hier les annonces du président de la Fed qui laisse espérer 75 points de base de baisse des taux de la Fed. Et donc, on va voir ce que va dire cette semaine la Banque Centrale Européenne. Mais bon, il va y avoir certainement une détente sur les taux. On commence à sentir une détente sur les taux. C'est la vitesse à laquelle les taux ont augmenté qui a perturbé le marché. Voilà. Quant au ratio d'endettement, ben c'est toujours pareil. C'est la notion très, très Bercy du rabot. Hop, tout le monde doit passer sous la même toise. Si vous empruntez pour construire une maison individuelle, vous êtes un primo-accédant, un jeune ménage qui s'installe dans la vie, qui gagne à eux deux 3 000 euros par mois, pour faire un prêt pour une maison, si vous endettez à plus de 33-35%, vous vous mettez dans la difficulté. Bon. Vous êtes une profession libérale installée avec des revenus entre 8 et 9 000 euros par mois, vous pouvez aller jusqu'à 40-42% de taux d'endettement. C'est toujours pareil. Il faut regarder, en fait, le reste à vivre. C'est ce que les opérateurs, notamment la Fédération du bâtiment, je crois, et puis d'autres, ont demandé à l'État de permettre aux banques de calculer sur un reste à vivre.
Donc, il y aurait une modification de la loi, ou au moins une envie de modifier ces 33%.
Je ne suis pas législateur et je n'aspire pas à le devenir, vous l'avez compris.
Mais c'est ce que vous demandez.
Bien sûr. Cette espèce de passion française pour l'égalité, c'est-à-dire qu'on fixe une règle, et on l'applique à tout le monde sans discernement, quel que soit le contexte, produit des effets de bord qui sont désastreux, on le voit là.
De toute manière, les banques étaient quand même pas folles, elles voyaient à qui elles prêtaient. Hein. Je prends les exemples que vous avez, quelqu'un qui a 8-9 000 euros de revenus.
Oui, mais quelqu'un qui a 8-9 000 euros de revenus, il a emprunté pour racheter une clientèle, pour acheter sa résidence secondaire et pour faire des travaux, s'il dépasse les 33%, on ne peut pas non plus lui prêter. Ce qui est absurde.
Alors, tant qu'on est sur la hausse des taux, on sait qu'économiquement, ça a un autre effet, c'est que ça freine la consommation de façon générale. Et on en revient à ce qu'on disait, ce que vous disiez sur le troisième pilier de l'économie départementale, la consommation des habitants, les commerces. Comment aujourd'hui ce secteur se porte ? Vous dites que c'est un secteur en difficulté ?
Disons que la hausse des taux, n'est pas ce qui impacte la consommation. Ce qui impacte la consommation, c'est l'inflation. Et la hausse des taux est un outil des banques centrales, et de la Banque Centrale Européenne en particulier, pour essayer de juguler l'inflation. L'inflation, c'est la masse monétaire en circulation. Donc plus on augmente les taux, plus on ralentit la création de monnaie, et donc plus on espère réduire l'inflation. Mais ce qui pose problème à la consommation des ménages, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'inflation. Et là, pour le coup, je suis beaucoup plus alarmiste que ce que j'étais sur les taux d'intérêt pour les emprunts immobiliers, c'est que sur notamment un certain nombre de produits de première nécessité, on a subi, et les ménages ont subi, nous avons tous constaté dans nos caddies, des augmentations à deux chiffres sur des produits de première nécessité. Des augmentations sur des pâtes alimentaires de 15 à 20%, sur tout un tas de produits. Et c'est ça qui freine la consommation. À partir du moment où le budget du ménage consacré aux dépenses essentielles connaît une envolée, effectivement, les autres dépenses, ben, y a des arbitrages qui sont rendus. Donc ça, c'est important. Donc nous avons le sentiment en termes macroéconomiques qu'il y a un ralentissement de l'inflation. Attention, hein, les prix ne baissent pas. Il y a un ralentissement de la hausse.
Oui, c'est ça.
Si les prix baissaient, ça serait de la déflation, ce qui n'est jamais bon en économie. Et d'ailleurs, on le voit, si on regarde les données économiques au niveau national, je crois que c'est Rex et Code qui a publié ça il y a quelques jours, en 2022, et ça sera probablement confirmé en 2023, cela faisait des années qu'en moyenne, les salaires n'avaient pas autant augmenté. Mais comme ils ont augmenté beaucoup plus qu'ils ont augmenté naguère dans les années antérieures, mais moins vite que l'inflation, c'est en même temps la première année qui a une baisse globale de pouvoir d'achat pour les ménages. Donc ça a des répercussions. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on retrouve dans les données du commerce, c'est qu'en chiffre d'affaires global, il y a une stabilisation, mais en volume, c'est-à-dire en passage caisse, en nombre d'articles, etc., on a plutôt un sentiment d'une légère déprise, avec en plus des mutations considérables du comportement d'achat des ménages, puisque vous avez vu au fil des derniers mois, beaucoup d'enseignes nationales qui ont mis la clé sous la porte, oui. Qui ont déposé le bilan.
Beaucoup dans l'habillement, quand même.
Beaucoup dans le textile, vous avez raison. Bon, qu'il y a une grande enseigne nationale de distribution alimentaire qui est quand même très très mal. Enfin, il y a une restructuration, des rachats de magasins, des rachats de points de vente, etc. Donc le secteur se réorganise. Mais il y a beaucoup d'évolutions de comportement d'achat des ménages. C'est notamment la recherche des prix bas. Donc on va sur Internet. Alors, donc on va chercher de la seconde main.
Oui.
La seconde main.
Oui.
Et donc forcément, ça a un impact sur la consommation.
Est-ce qu'on a des chiffres du nombre de fermetures de commerces de détail ? Est-ce que c'est un chiffre qui est en hausse ?
On a trouvé un chiffre de l'INSEE, 73% de défaillance sur une année glissante entre octobre 2022 et octobre 2023, avec une accélération à partir de janvier 2023.
Oui.
Les secteurs les plus impactés, c'est l'hébergement, restauration et commerce et réparation automobile.
Oui, mais alors attention, là aussi effet d'optique. Grosso modo, jusqu'à la crise du Covid, le trend moyen de défaillance d'entreprise en France était de 55 à 60 000. Nous sommes tombés, lorsque l'économie a été mise sous cloche, de façon peut-être un peu longue, mais en termes de finances publiques, mais en tous les cas, bienvenue pour le maintien du tissu économique, ce nombre de défaillances, en 2021-2022, s'est effondré aux alentours de entre 20 et 30 000. Donc vous avez un effet rattrapage, sans que pour autant, on est en 2023, quand on regarde les chiffres et l'année n'est pas encore tout à fait terminée, on n'a pas encore atteint les niveaux de défaillance d'entreprise qui étaient ceux de 2018-2019. Donc il y a un effet rattrapage qui est lié à plusieurs phénomènes. D'abord, les tensions sur les trésoreries, et il faut continuer à honorer le remboursement des PGE.
Par exemple.
Il y a également le fait que les assignations par les URSSAF ont repris, alors qu'ils avaient été suspendus. Probablement imprévisible, il fallait s'y attendre. Mmh. Et puis, vous avez des phénomènes qui sont ceux que des entreprises qui étaient en difficulté avant la survenance de ces solutions d'aide ben, n'ont pas réussi à mettre à profit la période pour surmonter leurs difficultés. Et donc, bah, les difficultés ex ante se retrouvent ex post. Pour autant, je conteste vivement ceux qui disent que ces dispositifs ont servi à sauver des canards boiteux. D'abord, je trouve ça absolument affreux comme expression. Mais surtout, vous avez un certain nombre de boîtes, parce que les patrons d'entreprise réfléchissent tous les matins en se levant et tous les soirs en se couchant à comment ils pourraient développer leur business. Bah, beaucoup d'entreprises qui auraient été condamnées avant la survenance de la crise ont mis à profit la période pour repositionner leur business, se réorganiser, etc. Et donc ont réussi à s'en sortir. Mais quelques-unes n'ont pas réussi.
Mais si vous dites qu'on n'a pas encore atteint le niveau de défaillance de 2018-2019 et que pour autant il y a un effet de rattrapage, c'est que finalement ça ne va pas si mal, on a l'impression.
D'abord, comment vous dire je vais dire, j'ai fait vœu, mais bon, on est à Lourdes, alors c'est vrai pas que ce soit mal, j'ai pas prononcé de vœu, mais en tous les cas, dans mes engagements, j'ai fait vœu d'optimisme. Vous ne m'entendrez jamais dire tout va mal. Nous avons des difficultés. Comme je vous ai dit, elles sont à peu près similaires à celles que rencontre l'ensemble de notre territoire. Il faut s'adapter, il faut faire évoluer les entreprises, il faut faire évoluer les business models, beaucoup le font. Il y a des formes de distribution qui rencontrent des difficultés. Il faut aussi en appeler, puisqu'on est sur un média à la fois parlé et écrit, il faut aussi en appeler à la responsabilité des consommateurs. On ne peut pas, en se levant le matin, dire qu'il faut relocaliser la production industrielle et passer la journée à acheter des produits made in China.
Pourtant, le made in France a l'air de supporter mieux.
Et nous sommes dans les chambres de commerce et d'industrie très engagés pour la promotion. Mais vous voyez, il faut aller plus loin.
Mais est-ce que la baisse du pouvoir d'achat n'incitait quand même pas les gens de regarder chacun, regarder sa porte?
Il faut rendre des arbitrages. N'oubliez pas ce qu'on disait, et c'était il y a quelques années, un slogan que les chambres de commerce et d'industrie distribuaient dans tous les commerces avec des autocollants. Vous avez comme moi les cheveux grisonnants, donc vous devez vous en souvenir. Nos emplettes sont nos emplois.
Oui, il est toujours d'actualité d'ailleurs.
Il est toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'il y a ça, donc la consommation, la responsabilité des consommateurs. Ensuite, sur le commerce de proximité, moi je dis souvent, un commerce, puisqu'on parle de commerce, n'est pas uniquement là pour décorer les rues et les places des villages, des bourgades et des villes. Ce sont des activités économiques. Si vous voulez, mesdames et messieurs les auditeurs de Radio Présence et les lecteurs de la Nouvelle République des Pyrénées, si vous voulez garder les commerces de proximité, consommez-y. Si vous n'y consommez pas, mais ils disparaîtront, parce qu'ils ne sont pas là pour décorer, ils sont là pour vivre grâce au chiffre d'affaires que vous leur apportez. Moi, par exemple, puisqu'on est face au groupe des pêches, moi, mon journal, je ne le fais pas venir par abonnement. Je vais, même si j'ai déménagé mes bureaux à Tarbes, je vais tous les jours, tous les matins, le chercher chez la même buraliste qui me garde mes journaux tous les matins. Voilà. Parce que je trouve que c'est formidable, c'est un secteur du commerce. On a d'ailleurs signé une convention avec la Confédération des Luttants de Tabac, qui sont les premiers ouverts, les derniers fermés. Donc on ne peut pas dire, ouais, c'est chouette, ils sont les premiers ouverts, les derniers fermés, il faut les faire bosser. Voilà. Et c'est pareil pour tous les commerces. Donc vous voyez, je suis plus volontariste que pessimiste.
Notre invité aujourd'hui, c'est vous, François-Xavier Brunet, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie, et merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler. On parle effectivement du troisième pied, vous l'avez dit, ce que nous, les consommateurs, ce que nous allons dans nos emplettes, vous l'avez dit, nos emplettes sont nos emplois. La désertification des centres-villes au profit des zones plus à l'extérieur des villes, par exemple, on voit comment s'est développé autour du méridien et y bosse énormément. Alors, beaucoup de fermetures en centre-ville, mais on retrouve quand même des structures sur ces grands centres commerciaux. Quel est votre regard? Est-ce qu'aujourd'hui, un centre-ville, c'est pas dépassé, la notion de centre-ville?
Non, certainement pas. Moi, d'abord, j'habite au centre-ville de Tarbes. S'il n'en reste que, ce sera moi. Je suis un des derniers des Mohicans. Non, plus sérieusement. On va signer prochainement le renouvellement, l'avenant au contrat Action Cœur de Ville, qui concerne à la fois Tarbes et Lourdes ici. Et puis il y a le programme Petite Ville de demain. Moi, j'ai salué ce programme lorsqu'ils ont été mis en œuvre, parce qu'ils ne se contentent pas de dispositifs d'accompagnement, d'agencement, mais ils ont intégré la dimension logement. Vous savez, on est sur un problème. problème qui est, j'allais dire, quasiment sociologique. Depuis les années 60, on a incité, on a favorisé plutôt, le développement de l'habitat périurbain. On a favorisé le développement de lotissements, de maisons individuelles. C'est très bien, c'est un gain de qualité de vie.
C'est-à-dire qu'à un moment, on ne voulait plus construire en vertical. Hein.
Assez formidable. Mais regardez dans nos villes, regardez le linéaire des commerces et regardez ce qu'il y a à partir du premier étage. Il y a plus de... la vraie problématique pour moi, la vraie problématique dans les centres-villes, si on croit à l'avenir des centres-villes, et d'ailleurs, les jeunes générations y croient plus que les grisonnants comme nous, pas pour vous, madame, les jeunes générations vont revenir à la proximité. Moi, je crois fondamentalement à la proximité. Mais si on veut favoriser la proximité, il faut favoriser le logement en centre-ville. Si vous avez que les gens qui habitent en périphérie, ben, ils vont faire leurs courses en périphérie.
Oui, mais ces mégastructures comme le Méridien, ces mégastructures où on va faire les courses théoriquement là où c'est le moins cher, ben voilà, on gravite tout autour. Une fois qu'on est garé, on va de commerce en commerce, qui est peut-être plus pratique que d'aller en centre-ville, payer une place de stationnement, trouver un endroit.
Ouais, enfin, vous savez, quand vous allez en périphérie, vous marchez des centaines de mètres sur les parkings en périphérie.
Oui.
Bon, non, je crois qu'il faut aller au-delà. Il ne faut pas opposer les formes de commerce. Elles sont complémentaires. Nous sommes tous des consommateurs hybrides. C'est-à-dire que nous avons à la fois, selon les moments, besoin de proximité, besoin de grandes distribs et besoin d'Internet. Et donc, il faut réussir, en responsabilité, à panacher notre consommation dans les différentes formes de commerce. Et il faut que chaque forme de commerce mette en avant ses atouts. C'est-à-dire qu'un commerce de proximité, il n'a pas la variété de gamme, il n'a pas le volume, donc il n'aura pas, pas le prix de la grande distribution. En revanche, il va se distinguer par l'accueil, le conseil, l'accompagnement.
Alors justement, Philippe mentionnait ces grandes enseignes et le fait qu'on revient aussi vers ces enseignes pour le prix face à l'inflation. Il me semble qu'avant le Covid, on parlait d'une tendance générale qui était à une baisse de la consommation dans les grands hypermarchés, qu'il y avait un retour peut-être vers de plus petites enseignes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a évolué avec l'inflation qui est revenue? Ou qu'il y avait une évolution de la consommation en ce sens-là pour la première fois depuis des années et des années?
Ça, c'est en train d'évoluer. Alors, on a toujours dans nos territoires un effet différé par rapport à ce qui se passe dans les plus grandes métropoles. Mais on commence à le voir. Regardez, puisqu'on parlait de Tarbes, à Tarbes, c'est dans la rue principale, rue Maréchal Foch, il y a une supérette d'une grande enseigne nationale qui commence par C et qui finit par R, qui a ouvert. Donc on voit se développer des formats de proximité. Regardez, puisque vous faisiez référence à mon expérience à la ville de Tarbes, regardez ce que nous avons fait à l'Albroban. Là, c'est un pari gagnant. C'est-à-dire mixer les différentes formes de commerce. Le commerce traditionnel et la grande distribution dans une logique de proximité et dans une logique de service et de qualité de l'offre. Moi, je crois qu'il faut travailler sur ces points-là, mais vraiment, pour revenir, Philippe, à votre question, tant qu'on ne résoudra pas la question du logement, on n'avancera pas sur la promotion du commerce dans les centres-villes. Dans les grandes métropoles, on a ce qu'on appelle...
Ça va prendre quand même beaucoup de temps. Par exemple, on le voit sur Lourdes. Aujourd'hui, la diminution du quartier de Lofite pour construire un nouveau quartier, l'idée, c'est de délocaliser les gens un certain temps et les remettre en centre-ville. C'est une volonté, mais il faut trouver des même s'il y a les aides, il faut... Voilà, vous disiez pour Lourdes, 100 millions sur le plan Avenir Lourdes, mais si la ville de Lourdes ou si les collectivités locales n'ont pas la mise de fonds, hein, 100 millions, c'est-à-dire qu'il faudrait plus de... sur un projet à 100 millions, il faudrait amener 20 millions. C'est à peu près 20% d'autofinancement. Et si on n'a pas ces 20 millions, les 100 millions, on peut annoncer toutes les sommes qu'on veut.
Sur le phénomène du retour dans les centres-villes, il y a ce qu'on appelle un phénomène que dans les grandes métropoles, on parle de gentrification. C'est-à-dire que les habitants de centres-villes ne sont plus que des gens aisés, des bobos, vous savez ce qu'on dit, à Bordeaux, Toulouse,
ou
des personnes âgées qui ont des moyens, etc. Dans nos territoires, dans nos villes moyennes, oui. Il n'y a pas que Tarbes et Lourdes qui connaissent ce phénomène. Et si vous allez à Vierzon, à Châtellerault ou à Briançon, vous serez confronté à la même difficulté. On a une forme de gentrification à l'envers. C'est-à-dire que vous avez une paupérisation des populations en centre-ville, et donc des populations qui, par nature, et nous ne saurions leur en faire grief, n'ont pas de pouvoir d'achat, et les personnes qui ont du pouvoir d'achat ont construit des maisons en périphérie. Voilà. Donc il faut mixer l'habitat en centre-ville, non seulement, comme vous le disiez, pour l'Ofite, faire du logement social en centre-ville, mais il faut également faire revenir des retraités, des jeunes ménages, des gens qui des actifs, des gens qui ont un peu de pouvoir d'achat, pour mixer un peu. Si vous avez tous les gens qui ont des moyens, qui sont en périphérie dans leur villa, et tous les gens qui vous n'avez que les logements sociaux en centre-ville, vous déséquilibrez. C'est ce que j'appelle la gentrification à l'envers. Et donc, c'est pas efficient. Donc, voilà, il faut réussir à mixer ça. Mais bon, c'est pas que les collectivités qui décident.
Tant qu'on est sur les zones commerciales, il y avait deux projets à Lourdes d'extension de zones commerciales. Est-ce que vous savez où ils en sont, les deux à l'entrée de Lourdes?
Écoutez, moi, je pas rentrer dans le détail des procédures qui sont en cours, si ce n'est que je déplore que, depuis quelques années, par une mauvaise transposition du droit européen dans le droit français, on est exclu. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers de l'artisanat, des commissions départementales d'aménagement commercial.
C'est étrange.
C'est une absurdité totale.
Oui.
Alors, on sait, quand on nous parle de notre ressource fiscale, nous rappeler que nous sommes un opérateur de l'État, entre guillemets, monsieur le maire, monsieur Bruno le maire, oui. Pas de confusion en trentaine, monsieur Bruno le maire sait nous le rappeler. En revanche, quand il s'agit de siéger dans des instances comme ça, on nous dit « Ah, mais vous êtes des représentants des pétitionnaires, c'est-à-dire des porteurs de projets, donc il y a conflit d'intérêts. » Non. Soit on est une institution publique, soit on est une organisation professionnelle, représentative. Nous ne sommes pas une organisation professionnelle représentative. Nous ne sommes pas le MEDEF, la CPME, ni la Fédération du commerce et de la distribution. Nous sommes un établissement public. Et donc, en tant qu'établissement public, nous avions vocation à apporter notre éclairage microéconomique sur le territoire aux décisions des membres de commission. Donc nous n'en sommes plus membres. C'est absolument désolant. Bon, moi, je n'arrive pas non plus à comprendre certaines décisions dans des CNAC qui sont totalement déconnectées des territoires, qui sont composées que de hauts fonctionnaires, et qui se prononcent sur des critères que je comprends. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va falloir réfléchir au régime d'autorisation commerciale, notamment avec la généralisation des études d'impact, mais des vraies études d'impact. Parce qu'il y a des cas où certains dossiers sont justifiés, des cas où certains dossiers ne sont pas justifiés. Voilà. Nous, le consulaire, on apportait un éclairage qui était intéressant. Bon, ça fait quelques années maintenant que nous en sommes exclus, et je le déplore.
Nous allons, parce que le temps passe relativement vite, vous êtes une personne intéressante et que vous nous donnez pas mal d'informations. On a vu donc le troisième pied, on a bien parlé du troisième pied. Revenons sur le premier, peut-être le tourisme et l'industrie. Quels sont les atouts des Hautes-Pyrénées, d'après vous? Quels sont les atouts? Est-ce que Lourdes, et que représente Lourdes dans ce département? Vous l'avez dit, un tiers de...
Un atout considérable. Le tourisme est un marqueur très fort de notre territoire. Et nous avons ce qu'on appelle en bon français des flagships. Lourdes est le premier d'entre eux. Lourdes est au-delà des convictions qu'on peut avoir. Bon, moi, mes convictions, je ne les cache pas. Je suis un vieux catholique et fier de l'être. Mais même si on ne croit pas, Lourdes est une marque mondialement connue. J'en veux pour preuve, d'ailleurs, que lorsque la Covid est survenue et que la clientèle traditionnelle de pèlerins de Lourdes n'a pas pu se déplacer pour des raisons évidentes sur lesquelles on va parvenir, d'aucuns beaux esprits avaient cru devoir considérer qu'on allait pouvoir jeter toutes ces vieilleries aux orties et qu'on allait pouvoir inventer autre chose et que c'était jamais que l'accélération d'un modèle finissant. Or, les pèlerins sont revenus, Dieu merci. Il y a un appétit de Lourdes, il y a une attente à l'égard du message de Lourdes. Donc ça, c'est un moteur formidable. Il n'y a qu'à voir la fréquentation de l'aéroport. L'essentiel des passagers d'aéroport, moi je vais régulièrement à Paris, l'essentiel des passagers qu'on voit sur Dorothea, ce sont des passagers qui vont à Lourdes.
Et qu'est-ce que vous dites alors lorsqu'on sait la chance que peut représenter Lourdes dans un territoire et qu'on dit ben, on va plutôt partir sur d'autres choses, sur vélo, sur laine, sur autre chose?
Mais sur le vélo, alors j'allais vous dire, après il y a d'autres flagships, il y a le Pic du Midi, qui est un marqueur très fort de notre territoire, et tout ce qui en découle sur le tourisme de montagne. Hiver, la saison de ski démarre, comme été, le vélo, grâce au Tour de France. le Tour de France est une caisse de résonance absolument extraordinaire. Et on a de plus en plus de visiteurs qui viennent dans les Hautes-Pyrénées pour faire du vélo et pour s'affronter, s'affronter au col.
Alors, est-ce qu'on n'est pas aussi aujourd'hui à une transition en ce qui concerne la montagne ? On a vu que pendant le Covid, on ne pouvait pas se déplacer. Beaucoup de gens avaient trouvé la montagne comme un refuge et ont peut-être découvert la montagne. Alors, la montagne différemment, parce que nous, la montagne, on l'a consommée que l'hiver avec le ski. Mais on peut la consommer toute l'année.
On peut la consommer toutes ses heures, bien sûr. La randonnée, les balades, la course à pied en montagne, le vélo, mais bien sûr, le ski reste un marqueur très fort. On n'a pas cité le thermalisme,
oui.
Qui est aussi un atout formidable pour notre territoire. Et regardez ce qui se passe d'ailleurs dans les Pyrénées, ce qui ne se passe pas d'ailleurs forcément de cette manière-là dans d'autres massifs comme les Alpes. Regardez l'hôtel à Loudenviel, l'hôtel à La Mongie. Également, il y a quelques années, un investissement important sur un hôtel à Pio-en-Galie. Donc il y a des investisseurs, il y a une montée en gamme du tourisme dans les Hautes-Pyrénées. Donc moi, je suis très confiant sur l'avenir du tourisme dans les Hautes-Pyrénées. Et très confiant sur le message et la portée de Lourdes.
Sur Lourdes, voilà, le tourisme donc. Et puis, on finit juste en deux mots, l'industrie. Vous l'avez dit, l'industrie recrute. Beaucoup, basée sur l'aérospatial, avec Toulouse à côté. Avec le Covid, l'aérospatial a eu un coup de frein. Est-ce qu'aujourd'hui, ça repart ?
Bah, attendez, les carnets de commandes d'Airbus n'ont jamais été aussi pleins. On était l'autre jour à l'UMM avec le directeur d'Airbus Toulouse et avec mon ami Patrick Piedrafita qui est président de la société de Toulouse et qui est l'ancien président d'Airbus France. Les commandes sont importantes, les commandes de Dassault avec notamment les ventes de Rafale n'ont jamais été aussi fortes, donc les carnets de commandes sont pleins. La supply chain mon premier vice-président Jean-Michel Seigneuret en parlerait plus savamment que moi. La supply chain a parfois un peu de mal à suivre parce qu'il faut avancer beaucoup de fonds, beaucoup de trésorerie. Donc il faut accompagner tout ça, mais les donneurs d'ordre jouent le jeu et les grands groupes comprennent. Il y a le secteur de l'aéronautique, mais aussi le secteur du ferroviaire, avec Alstom, avec CAF. À Bagnères, avec Alstom à Séméac, il y a le pôle céramique au nord de Tarbes. Donc on a vraiment des outils. L'ancien Premier ministre Jean Castex était venu dans le cadre de France 2030, France Relance à la SCT à Bazette. Donc on a vraiment un tissu industriel qui est résilient, qui est fort, qui est porteur de potentialité. Moi j'y crois beaucoup et je vais vous dire, on s'approche de la conclusion, je suis né natif des Hautes-Pyrénées, je vous ai dit que le tourisme était un marqueur très fort de notre territoire, mais il ne peut pas exister de développement économique durable sans développement industriel. Mmh. Moi je suis né sur le plateau de l'Admezan, au pied des usines, dans des maisons qui maintenant pour cause de ces maisons ont été rasées, mais je sais ce que c'est, je l'ai vécu dans ma famille. Il ne peut pas y avoir de développement économique pérenne sans développement industriel.
Mm-hmm. Vous qui naviguez sur les sphères nationales, lorsque vous revenez dans les Hautes-Pyrénées, vous êtes toujours fier d'être haut pyrénéen?
Ah bah écoutez, mes amis Vincent Fonvieille et Philippe Macheneau, lorsqu'ils ont lancé la marque Pyrénées ici à Lourdes à l'occasion de Pyrénéo, m'ont élevé à la dignité de VIP, valeureux influenceur pyrénéen. Donc je suis très fier, vous voyez. Donc, je l'affirme.
Voilà, et optimiste.
Il faut.
Merci beaucoup. On aurait eu plein d'autres questions à vous poser parce que le sujet.
Je reviendrai avec plaisir.
Mais bien sûr, on prendra acte, tiens, de vous réinviter régulièrement. On oublie de dire aussi que vous faites beaucoup de choses, vous proposez beaucoup de choses pour les entreprises et les aides. En septembre, vous aviez même signé une convention avec la SMT pour la maladie, pour que les chefs d'entreprise aussi puissent se soigner parce qu'eux sont exclus de ce genre de dispositif. Et vous, voilà, vous faites beaucoup, vous êtes très acteur. D'ailleurs, pour preuve, toutes les conférences de presse, presque une par semaine, vous faites. Vous êtes très.
Faudrait pas qu'on me voie trop, ça pourrait être mal interprété. Faudrait pas faire un lien avec le début de notre entretien, que ça crée pas de malentendu.
Pas de malentendu, mais oui. Mais on sait jamais. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Merci à vous.
À vous, François-Xavier Brunet, président de la Chambre de commerce et d'industrie. Mais il n'y a pas que ça. Vous êtes également. On a peu parlé de votre profession. Vous avez aussi une profession.
Ah oui, surtout, voilà. Et avant tout.
Et assureur.
Agent général d'assurance, à Tarbes et à Bagnères. Oui,
voilà, à Tarbes et à Bagnères. Merci à Gaëtan Rohr, du groupe La Nouvelle République. Ça passe très vite.
Oui.
C'est même un peu frustrant. Merci beaucoup. À très bientôt.
À bientôt.
L'heure de pointe, en partenariat avec La Nouvelle République des Pyrénées, Gaëtan Rohr, Philippe Subercase.